La chaussure rouge en radio. La chaussure rouge en radio a joué les prolongations pour ce qui est de la pause estivale. Nous avions alors troqué notre micro pour un pinceau, histoire de faire quelques travaux. Nous voici de retour dans un nouvel écrin, et les murs du studio sont désormais comme nos chaussures, rouges. À la découverte de la mémoire de l'eau, c'est le thème de cette soirée du mois de novembre avec deux invités, Luc Montagnier et Marc Henry. Avec nous, Julie, Fatima, Lucien et Patrick. Soyez les bienvenus à bord. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Et bienvenue Lucien.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Alors le déroulement de cette soirée va se faire dans une espèce de partie de ping-pong entre nos deux invités présents ce soir, Luc Montagnier d'un côté, Marc Henry de l'autre, que l'on va retrouver dans quelques instants, une fois que nous aurons un petit peu planté le décor et découvert le portrait réalisé comme d'habitude et comme à l'accoutumée par Julie. En attendant, il va encore falloir qu'on puisse retrouver notre premier invité, Luc Montagnier, puisque nous l'avions en ligne tout à l'heure et puis là, on l'a un petit peu perdu. Alors on va profiter de ce début d'introduction pour tenter de retrouver une connexion avec lui. Je vous propose donc, dans un premier temps, comme je vous le disais, de planter le décor.
La vie sur Terre a commencé dans l'eau des océans. Nous-mêmes, nous commençons notre vie dans le liquide amniotique, composé à 99% d'eau. L'eau fait partie de notre vie intime. Nous sommes faits en grande partie d'eau. Nous pouvons survivre longtemps sans manger, mais pas sans boire. L'eau, c'est la vie. Mais cet élément que nous croyons bien connaître aurait peut-être des propriétés insoupçonnées et jouerait un rôle encore plus important que nous l'imaginions dans notre biologie. C'est en tout cas ce que pensent les partisans d'une étonnante théorie, la mémoire de l'eau. Pour eux, l'eau serait capable de reproduire les effets d'une substance avec laquelle elle a été en contact, même lorsque la substance ne s'y trouve plus. L'eau aurait donc la capacité de garder en mémoire les propriétés des molécules.
On va partir.
Luc Montagnier est un biologiste et virologue français. Dans les années 1980, à l'Institut Pasteur de Paris, il travaille sur une infection fulgurante liée à une baisse massive des défenses immunitaires. Avec son équipe de chercheurs, il met le doigt sur le virus causal du sida. Mais cette découverte est également revendiquée par des chercheurs américains. L'équipe de Luc Montagnier met ensuite au point un test de diagnostic sérologique. En 2008, le virologue reçoit avec Françoise Barré-Sinoussi le prix Nobel de médecine, plus de 20 ans après leur découverte du virus du sida. Luc Montagnier participe aussi à plusieurs conférences en Afrique pour lutter contre la propagation du VIH. Le virologue reprend en 2007 la théorie controversée de Jacques Benveniste à propos de la mémoire de l'eau. L'eau aurait la capacité de garder en mémoire les propriétés d'un élément avec lequel elle aurait été en contact. De plus, les bactéries et les virus présentes dans l'ADN induiront des nanostructures dans l'eau émettant des ondes électromagnétiques. Cette découverte pourrait, selon Luc Montagnier, ouvrir de nouveaux champs d'application de l'eau pour soigner les gens. Ces recherches sont jugées parfois farfelues par une partie de la communauté scientifique. Ceux-ci accusent le professeur Montagnier de produire des résultats invraisemblables qui sortent de son domaine de compétences. Mais malgré les critiques, à 87 ans, Luc Montagnier continue ses recherches. Il est appuyé par le professeur Marc Henry, directeur du laboratoire de chimie moléculaire de l'état solide à Strasbourg. Professeur de chimie et de physique quantique, il a notamment rédigé « L'eau et la physique quantique vers une révolution de la médecine ». Marc Henry préside aussi l'association NaturoQuant, qui œuvre pour une approche quantique de la nature. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir ces deux chercheurs français de grande renommée pour nous parler de recherches inédites sur l'eau, dont les résultats font couler beaucoup d'encre. Bonsoir, Monsieur Luc Montagnier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On est très content de vous accueillir.
Merci.
Alors vous êtes...
Et puis on va saluer aussi Marc-Henri qui est de l'autre côté sur une autre ligne. Marc-Henri,
oui. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marc-Henri.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être vous deux là ce soir pour nous parler de ce domaine incroyable qui est celui de l'eau. Ah, je crois qu'on a un petit problème, la connexion a été interrompue.
Je vous propose de poursuivre un petit peu dans cette soirée en discutant bien sûr avec notre autre invité, Marc-Henri, qui lui est bien présent.
Oui, moi je suis là, il n'y a pas de souci.
De ce côté-là, ça marche bien. Voilà. Dites-nous peut-être, Marc-Henri, comment vous avez abordé cette recherche sur la mémoire de l'eau et surtout comment vous avez rencontré le professeur Luc Montagnier.
Oui, donc moi je suis arrivé dans la mémoire de l'eau. Bon, j'ai fait ce qu'on appelle un doctorat, qui est donc un diplôme universitaire sur ce qui se passe quand on met des espèces en solution dans l'eau. Et il se trouve que j'ai soutenu mon doctorat en 1988, et que c'est précisément l'année où est apparu le fameux article de Jacques Benveniste dans la revue Nature, qui me montrait, à moi chimiste qui ne croyait qu'à la matière, qu'on pouvait avoir des propriétés, bien sûr, des espèces qu'on dissout dans l'eau, mais que l'eau en elle-même pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est grâce à Jacques Benveniste et à ses travaux de 1988 que j'ai pu regarder un petit peu tout ça d'un petit peu plus près. Et ensuite, c'est comme toujours, quand vous rentrez dans l'eau, vous savez, c'est comme quand vous allez à la plage, vous commencez par mettre le petit doigt de pied, puis les genoux, puis jusqu'à la taille, et puis finalement, vous finissez par vous immerger totalement. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc, tout ce cheminement depuis 1988, m'a amené à regarder l'eau non pas comme étant une espèce qui va dissoudre d'autres espèces pour garder les espèces en solution, mais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un solvant qui finalement n'existe, sans lequel la vie n'existerait pas. Et ça s'est produit environ au niveau des années 2012, lorsque j'ai rencontré des physiciens théoriciens qui ont mis au point des modèles théoriques permettant d'expliquer la mémoire de l'eau. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré Luc Montagnier, évidemment, qui a repris donc les travaux qu'avait fait Jacques Benveniste avant lui, sachant que Luc, lui, est allé un cran plus loin, c'est-à-dire que Jacques Benveniste avait montré qu'on pouvait transmettre, faire de la biologie numérique, c'est-à-dire numériser une molécule dans l'eau. Luc Montagnier, ayant repris les travaux, est allé surtout beaucoup plus loin, puisque lui, il a pu vraiment montrer qu'on peut écrire carrément un ADN dans l'eau, et ça, il l'a démontré scientifiquement avec toutes les méthodes de la science, et donc on s'est rencontrés, on a discuté, et moi je pense que ce que fait Luc Montagnier est quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépasse les dogmes, on observe, et à partir du moment où on observe, on est obligé d'accepter. Et ça, c'est sa grande qualité. Et à ce titre-là, bien, on échange régulièrement sur ces problèmes-là. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire.
Quand vous expliquez qu'il faut transcender les dogmes, je crois que je vous ai entendu dans un interview, vous parliez de finalement, pour pouvoir comprendre l'eau, il faut pouvoir réunir toutes sortes de disciplines pour l'analyser. Finalement, la science découpe un peu le monde en disciplines, la chimie, la physique, la biologie. Oui. Et puis là, vous, ce que vous faites, Monsieur Montagnier et Monsieur Henri, c'est en fait de réunir ces disciplines pour pouvoir vraiment comprendre l'eau sous toutes ses facettes, c'est correct?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la biologie mérite qu'on y fasse de la physique. Jusqu'à présent, la biologie était toujours un petit peu mise comme étant sous le boisseau de la chimie. Et ce qu'on découvre, c'est que finalement, une cellule fonctionne plus par la physique que par la chimie, c'est-à-dire par les rayonnements électromagnétiques. L'eau est très sensible. Et ça, c'est vraiment, c'est pas dans la culture du biologiste, hein. Le biologiste, lui, il est toujours ancré dans la matière. Il lui faut une molécule, un récepteur. Cette idée que on a des choses qui sont non matérielles, c'est-à-dire des choses qui sont des ondes électromagnétiques, ça leur échappe un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver avec l'homéopathie, c'est que l'homéopathie, justement, a ce caractère immatériel qu'on ne peut pas expliquer par la matière, et là, on est vraiment obligé de plonger dans la physique ondulatoire. Et qui dit physique ondulatoire dit évidemment physique quantique.
Alors, est-ce que Luc Montagnier est là, finalement ? Monsieur Montagnier, vous êtes là ?
Simplement, je voulais dire que dans l'histoire de la biologie, il y a plusieurs grandes étapes. la biologie moderne a commencé avec la biologie moléculaire, avec surtout la double hélice, la structure, la double hélice d'ADN, le pouvoir, ce qui conserve notre patrimoine génétique. Et donc, c'est à la fois, si vous voulez, ça a été un très grand progrès, mais maintenant, c'est considéré comme un dogme. Et ce dogme éteint un petit peu le progrès nouveau. Or, effectivement, comme l'a dit Marc-Henri, la vie, c'est quelque chose de très compliqué, de très complexe. Et il faut faire appel à toutes les disciplines, y compris la physique quantique, pour comprendre, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans cette affaire, l'eau a un rôle énorme. L'eau, c'est 70% de notre corps. Et l'eau qui est dans notre corps n'est pas l'eau que du robinet, c'est de l'eau organisée. Et donc, le premier pas important, si vous voulez, dans cette nouvelle recherche, c'est de voir d'abord quelles sont ces structures stables de l'eau. Là, alors, il y a un grand débat entre les physiciens. Les physiciens disent que ça change tout le temps, ça ne peut pas être stable. Or, il y a des arguments expérimentaux qui montrent qu'il y a des structures de l'eau stables, même très stables. Alors, il faut les analyser, bien sûr. Alors, elles se produisent dans certaines conditions, pas toutes qu'on le connaît, mais on connaît en tout cas le rôle de ce qu'on appelle des surfaces hydrophiles, les surfaces qui aiment l'eau. Eh bien, l'eau également réagit aux surfaces qui aiment l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Votre recherche paraît finalement surprenante quand on est des personnes qui, enfin, pas des scientifiques justement, monsieur et madame tout le monde. Donc l'ADN dans l'eau émet des ondes électromagnétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment, en mettant justement de l'ADN dans l'eau, ensuite vous arrivez à mesurer les ondes électromagnétiques émises par cette eau qui a été en contact avec cet ADN?
Oui, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est tous les ADN qui font ça, c'est pas... Moi, je suis médecin de formation et je m'intéresse aux maladies. Mmh. Et donc, les ADN qui causent des maladies, des virus, des bactéries, auxquelles je m'intéresse le plus, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, on voit effectivement que on peut, en somme, numériser l'ADN et le transmettre à travers l'eau. Alors, ceci a été obtenu, bien sûr, plusieurs fois, mais pas de façon complète, reproductible par tout le monde. Alors, donc ça, je suis d'accord avec les gens qui disent « Ah, mais c'est pas reproductible, donc ça n'existe pas en science. » C'est vrai, il faut que les expériences soient reproductibles. C'est pourquoi je me suis attaché, plus récemment, à montrer que l'eau pouvait être lue par une enzyme de synthèse qui est une polymérase, qu'on appelle une polymérase, et ceci, quand l'ADN de la molécule de départ n'existe plus. C'est-à-dire, c'est une image de l'ADN qui est conservée dans les molécules d'eau. Alors, comment ça se passe aussi? Ça, c'est encore très, très compliqué. On n'a pas tous les éléments. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tout ça, ceci est le fruit de travail collectif de beaucoup de laboratoires. Et un laboratoire italien a récemment utilisé l'eau pour en extraire un extrait solide qui n'est pas la glace. Et on pense que cet extrait solide est peut-être le support initial de la formation. Mais ça se transmet aussi dans l'eau, qui devient un cristal liquide. Donc tout se passe devant nos yeux, mais nos yeux sont un peu aveugles, on peut dire, pour l'instant. On n'a pas tous les éléments, toutes les technologies pour les étudier. Et simplement, on sait que c'est une étape à expliquer, de toute façon. C'est une étape, on fait des dilutions dans l'eau, jusqu'à au fait qu'il n'y a plus de molécules d'ADN. Et malgré cela, l'enzyme de synthèse de l'ADN le reconnaît. Alors donc, c'est forcément une image, une émanation, si vous voulez, de l'ADN dans l'eau. Alors, ça remet en question beaucoup de choses, mais ce sont des faits expérimentaux, ceux-là qu'on peut reproduire.
Donc, ces effets expérimentaux que nous avez faits, donc si je vous comprends bien, ça voudrait dire que l'ADN émettrait des ondes, l'eau, elle, aurait la capacité de capter ces ondes et de le retransmettre, soit de reconstituer la séquence complète de l'ADN à travers le signal mémorisé dans l'eau. C'est bien
tout
ça,
c'est ça. C'est bien ça. Alors, ceci marche pour des séquences assez courtes. On ne peut pas dire que tout l'ADN va suivre. Pour l'instant, on travaille sur des séquences de 200 à 500 paires de bases. Vous voyez, c'est pas très...
Mais dans les expérimentations que vous avez faites, en fait, vous avez expérimenté la transduction, vous appelez ça la transduction de l'ADN, c'est-à-dire des molécules d'ADN hautement diluées dans de l'eau en France, puis qui a été reconstituée en Italie. C'est bien ça?
Oui, ça a été l'expérience. Ils sont décrites dans un film. Je pense qu'elles ont été... Elles ont été répétées, mais est-ce que tout le monde peut les répéter? Est-ce que tous les labos peuvent les répéter? Je ne crois pas pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté plus récemment sur une technologie qui est très connue, qu'on appelle la PCR, et qui est une réaction donc en chaîne par une polymérase spéciale. Une polymérase, c'est-à-dire une enzyme qui synthétise l'ADN. Et cette polymérase refait effectivement la lecture de quelque chose qui est dans l'eau.
J'ai une question pour Marc-Henri. Comment l'eau mémorise-t-elle les ondes électromagnétiques?
C'est quelque chose qui normalement ne devrait pas arriver hein, si on en reste à la physique du 19e siècle. C'est-à-dire si on pense que tout est matière, il n'y a aucune chance effectivement que l'eau mémorise quoi que ce soit. Maintenant, ce que nous a appris aussi cette physique, c'est qu'à côté de la matière, il y a ce qu'on appelle les champs. Alors, ça peut être des champs quantiques, mais sans aller jusque-là, ça peut être aussi tout simplement ce qu'on appelle les champs électromagnétiques. Et ces champs électromagnétiques, on les connaît bien, puisque c'est ceux qu'on utilise en ce moment pour discuter. Moi, je suis à Strasbourg, vous êtes en Suisse, Luc est à Paris, et vous voyez qu'avec les champs électromagnétiques, on arrive à avoir une discussion qui est tout à fait compréhensible. Et donc, tous ces champs électromagnétiques sont non matériels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer ça sous la forme de matière. Donc la grande idée, elle ne vient pas de moi, elle vient d'un groupe de théoriciens italiens qui l'a émise dans les années 90. C'est de dire que finalement, si on veut comprendre toute matière, il faut prendre aussi en compte la partie non-matière qui est ce qu'on appelle le rayonnement. Et donc à partir du moment où vous dites que dans la nature, il y a de la matière et des rayonnements, il est bien évident que ça, en chimie, on le connaît très bien. Si vous voulez caractériser un objet, une molécule, vous ne la caractérisez pas par une analyse chimique. Vous faites une analyse spectroscopique, c'est-à-dire que vous envoyez un rayonnement électromagnétique, et ce rayonnement électromagnétique, il y a une réponse de la matière, et cette réponse est la signature non matérielle de la matière que vous avez. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut savoir tout ce qu'il y a sur des planètes qui sont des étoiles qui sont à des millions d'années-lumière. On ne va pas chercher la matière pour l'analyser, on envoie un rayonnement, et grâce au rayonnement, on sait très bien quel type de molécules sont dans l'espace. Donc à partir du moment où on a compris ça, la mémoire de l'eau, ça devient finalement quelque chose d'assez trivial. C'est qu'une fois que vous diluez une matière, bien sûr, vous allez enlever les atomes, la partie matérielle, mais comme ces atomes sont forcément en mouvement, et qui sont électriquement chargés, ils vont générer des champs électromagnétiques, et c'est ces champs électromagnétiques non matériels qui sont piégés par ce qu'on appelle des domaines de cohérence, qui sont des structures d'eau nanométriques, qui mémorisent le signal électromagnétique, la signature électromagnétique de toute matière.
Alors, je me suis rendu compte, à travers certaines vidéos, que vous êtes un bon vulgarisateur, monsieur Henri. Est-ce qu'il serait possible de vulgariser ça un petit peu pour les auditrices et les auditeurs, c'est-à-dire comment ces molécules d'eau s'organisent pour capter justement ces ondes électromagnétiques?
C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que si vous êtes tout seul, si vous pensez à l'eau comme étant une molécule d'eau, il ne peut rien se passer. Quand vous êtes tout seul, il n'y a aucun moyen de faire grand-chose. Par contre, si vous commencez à penser que vous êtes non pas une molécule, mais plusieurs molécules, un rayonnement électromagnétique, en fait, on sait aujourd'hui par la physique quantique, c'est ce qu'on appelle des photons, c'est-à-dire des espèces de ballons de rugby ou de football. Et comme avec tous les ballons, ben, vous pouvez les échanger. Donc la grande idée, c'est d'aller dire que deux molécules d'eau vont échanger des photons. Alors ce sont des photons qui sont, qu'on appelle virtuels, c'est-à-dire qui restent piégés à l'intérieur de l'eau. Il n'y a pas d'émission électromagnétique, sauf si on met un champ comme le champ terrestre, par exemple. Et tout ce petit jeu de lumière et de matière se fait avec des fréquences. Et ces fréquences, bien évidemment, elles permettent de faire une signature de toute espèce qui est en solution. Et donc, c'est bien parce qu'on va dire que l'eau est un liquide associé, c'est-à-dire que ce n'est pas une formule H2O, mais c'est un domaine de cohérence, c'est-à-dire grosso modo 10 millions de molécules d'eau qui, tout d'un coup, se mettent à fonctionner comme si c'était un seul molécule, et ça donne ce qu'on appelle donc une cohérence de phase. Ça, c'est très bien décrit par la physique quantique des champs, cette notion de cohérence de phase. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus le droit, dans ces 10 millions de molécules d'eau, de dire que ces 10 millions de molécules d'eau, c'est devenu une entité qui est soudée par des fréquences électromagnétiques. Et c'est ça, finalement, qui est intéressant, c'est que ces fréquences électromagnétiques, elles viennent évidemment du soluté, et on peut coder numériquement n'importe quelle information sur ces domaines de cohérence.
Alors, on est rentré effectivement dans quelque chose d'assez poussé, mais moi qui suis très branché sur l'aspect technique, je dois dire que je dois m'accrocher pour bien comprendre là où on veut en arriver, mais cela dit, ça reste extrêmement intéressant. Moi, je vous propose de souffler quelques instants avec un thème ici instrumental d'un musicien canadien qui s'appelle Cole McDonnell. C'est un choix de Monsieur Luc Montagnier, puisque c'est lui qui nous a proposé cette pause musicale. Je vous propose qu'on la découvre là tout de suite. Évidemment, on a choisi le thème qui reste lié avec l'eau, ça s'intitule Rain. Ce thème s'intitule donc Rain, le choix musical de l'un de nos invités présents ce soir, Luc Montagnier, qui est toujours avec nous. Luc Montagnier, vous nous expliquez en quelques mots pourquoi vous avez choisi cet auteur Cole McDonnell ?
Je pense qu'il traduit un petit peu notre sentiment, si vous voulez. On va dans une sorte de milieu cosmique qui est nous-mêmes. Alors, nous sommes de l'organisé et de vraiment très, très bien organisé. Et il y a une sorte de négation de cela par beaucoup de nos collègues. J'espère que ceci va disparaître, mais le temps semble assez long pour que les gens comprennent. Et surtout, c'est effectivement une révolution pour la société. Car si vous admettez l'homéopathie, le traitement par des molécules informées qui sont des molécules d'eau, ça bouleverse l'industrie pharmaceutique, etc. Donc il y a des facteurs économiques qui bouchent cette sensation. Et je pense que cette musique correspond assez bien à ce que nous ressentons.
Merci pour avoir partagé cet auteur que nous ne connaissions pas avec nous. Et je vous propose de continuer notre entretien avec de l'autre côté du studio. Julie, il y a d'une part Julie et puis il y a d'autre part Lucien pour continuer cette explication du monde de la mémoire de l'eau.
Alors, M. Henri, la question était la suivante, c'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de domaine de cohérence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'une manière vraiment schématisée comment, en fait, ces différentes molécules d'eau s'organisent pour, en fait, finalement, créer un domaine de cohérence ?
Oui, donc, je vais reprendre peut-être l'image que j'avais prise dans le documentaire qui est passé sur France 5 en 2014, où j'explique un petit peu ça. Donc, on va imaginer que les molécules d'eau sont des enfants dans une cour de récréation. Chaque enfant représente une molécule d'eau. Et on va imaginer qu'il y a, en fait, deux types de mouvements, ce qu'on appelle collectifs. Parce que l'idée, c'est évidemment que chaque enfant ne fait pas simplement rester dans son coin. Et ils vont tout simplement se donner la main, qui est le signe qu'il y a une interaction qui se passe entre les molécules d'eau, donc entre les enfants. Et à ce moment-là, on voit tout de suite, quand vous regardez une cour d'enfants, qu'il y a en fait deux états qui sont possibles. Soit les enfants font ce qu'on appelle une chaîne, une farandole, c'est-à-dire qu'ils se donnent la main, mais le dernier enfant, lui, ne redonne pas la main au premier, donc ça fait quelque chose qui ondule. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'eau incohérente. Une autre possibilité, c'est que le dernier enfant, au lieu de laisser sa main vaquer dans le vide, il va rejoindre la main du premier enfant de la farandole. À ce moment-là, la situation est complètement différente parce que maintenant, les enfants font ce qu'on appelle une ronde. C'est-à-dire qu'il y a un rond qui s'est créé. On s'appelle ça en physique une cohérence. Et cette cohérence, elle fait apparaître automatiquement quelque chose qui est intéressant, c'est le vide. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe à l'intérieur du rond par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et si vous regardez des enfants faire une ronde, vous remarquerez qu'ils vont tourner, évidemment, et surtout, ils vont chanter. Et c'est ça, en fait. Le chant, c'est une fréquence. On peut faire une ronde, par exemple, en chantant une chanson comme « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas ». Et ça, c'est une certaine information. On peut aussi faire une ronde en disant, chantant une autre chanson. Et si vous chantez une autre chanson en faisant la ronde, ou coder une autre fréquence. Et donc ça, c'est toute l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a ces domaines de cohérence qui apparaissent, ces rondes, qui ont un vide intérieur, on peut mémoriser une fréquence, qui, dans l'analogie que j'ai prise, correspond à la chanson que vont chanter les enfants. Et bien évidemment, vous pouvez chanter une infinité de chansons tout en faisant la ronde. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir coder un très grand nombre de fréquences qui représentent une molécule d'ADN. Il suffira simplement d'avoir plein de rondes, plein de domaines de cohérence. Chaque domaine de cohérence code sa fréquence, et à ce moment-là, on finit par coder, via un ensemble de rondes suffisant, l'ensemble de la molécule.
Et ce qui veut dire que les recherches que vous êtes en train de faire, et ce que vous êtes en train de démontrer, c'est que, en fait, ces cohérences, donc ces rondes d'enfants, qui ont capté des ondes électromagnétiques.
Ce sont des ondes de molécules d'eau.
Oui, donc molécules, oui, c'est ça, effectivement. Quand même, faut quand même pas trop.
Ça, c'est l'analogie.
Faut quand même pas exagérer.
Lucien pris dans son élan.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces ondes de molécules d'eau, en fait, qui ont à l'intérieur le vide qui enregistre, en fait, ces ondes électromagnétiques, fréquences, ces ondes électromagnétiques, si on met un ensemble de ces molécules d'eau avec d'autres molécules d'eau, elles vont être capables de transmettre à toutes les autres molécules d'eau ces ondes électromagnétiques, c'est ça, si j'ai bien compris?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que bon, j'ai une expérience que je montre sur YouTube hein, avec des métronomes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fixez une fréquence et que vous avez un contact entre les molécules d'eau, ce contact il est évidemment assuré par ce qu'on appelle les liaisons chimiques. Hein, les molécules d'eau se lient les unes aux autres. Eh bien, tout le monde va finalement entrer en fréquence. Vous le voyez bien, par exemple, quand vous faites une soirée où quelqu'un commence à chanter, ben, au départ, chacun chante un petit peu comme il peut, et puis il va y avoir cette magie qui va opérer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de chanter, vous allez voir que les gens vont s'ajuster, c'est-à-dire qu'ils vont finir par chanter tous à peu près à la même fréquence. Donc c'est exactement ce qui se passe quand vous diluez. Vous avez des rondes de molécules d'eau qui donnent une fréquence. Vous amenez des nouvelles molécules d'eau qui, elles, n'ont pas spécialement de, sont plutôt en chaîne qu'en ronde, mais elles vont se mettre en ronde et elles vont se mettre en cohérence, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre à chanter à l'unisson ou à l'octave, peu importe. Il va y avoir une relation de fréquence entre ces rondes. Et c'est comme ça qu'on peut informer, donc transmettre l'information de molécules d'eau qui sont dites informées à d'autres molécules d'eau qui ne le sont pas.
Pendant qu'on est dans le champ, ça fait penser au travail du professeur Emoto, je pense que vous connaissez certainement, hein, qui n'a de cesse de démontrer que les émotions humaines, tout comme la musique, pourraient avoir des incidences sur la structure de l'eau.
Oui, donc ça, l'idée est très bonne. C'est effectivement une idée que je défends à 100%. Et même, je vais même plus loin que M. Emoto, c'est-à-dire que je pense que l'information première est une vibration, un son. Par contre, la méthode qu'il avait choisie pour mettre en évidence cette mémoire n'est pas forcément très correcte. Donc, moi, je travaille sur d'autres méthodes beaucoup plus rigoureuses qui permettent effectivement de dire que une fois qu'on a un son, une fréquence fondamentale, eh bien, on a le début d'une histoire qui va se terminer par de la matière. Mais Emoto a été un précurseur de ce genre de choses.
Moi, je me demandais, du coup, quelles sont les conséquences de cette découverte de la mémoire de l'eau? Comment est-ce qu'on peut appliquer, justement, ce que vous avez découvert à la médecine? Est-ce qu'on pourrait imaginer de nouvelles méthodes de soigner les gens suite à votre découverte? Et puis, si c'est le cas, qu'est-ce qui manque pour pouvoir développer ça?
Ben, il manque, comme toujours, si vous ne croyez pas à quelque chose, ben, vous ne le faites pas. À partir du moment où vous allez commencer à faire quelque chose, il faut que vous ayez un minimum de croyance à ce que vous faites. Donc, la mémoire de l'eau, ça paraît tellement fantastique qu'on puisse coder sur des molécules d'eau des informations électromagnétiques, que c'est vrai, il y a 20-30 ans, on pouvait comprendre des gens qui avaient du mal à comprendre ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en 2019 et regardez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Tout est dématérialisé. Maintenant, quand vous voulez rentrer dans votre garage, il n'y a plus de clé. Vous ne mettez plus une clé dans une serrure. Plus personne ne fait ça. Si vous faites ça, c'est que vous êtes un dinosaure. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, il y a une fréquence qui est émise, il y a une porte qui s'ouvre. Si vous regardez vos actes administratifs, votre feuille d'impôt, est-ce que vous allez encore remplir cette feuille d'impôt avec de l'encre et du papier? Non. Vous allez sur Internet et tout est dématérialisé. Donc, ce que nous amène la mémoire de l'eau, c'est qu'on peut aussi dématérialiser non pas les actes administratifs, les papiers, on peut aussi dématérialiser les médicaments. C'est-à-dire que quand vous savez, par exemple, vous voulez produire un anticancéreux et que cet anticancéreux, il coûte 200 000 euros, il y a des traitements qui sont à 500 000 euros parce que la molécule, il faut la produire, la fabriquer et ça coûte très cher. Avec la mémoire de l'eau, vous fabriquez la molécule une seule fois. Bon, ça va coûter cher, mais vous dépensez la somme une seule fois pour fabriquer quelques molécules. Vous enregistrez le spectre de fréquence qui est complètement équivalent à cette molécule. Et ensuite, dupliquer un spectre de fréquence, c'est comme quand vous dupliquez un fichier MP3. Une fois que vous avez un fichier MP3, vous le savez bien, via Internet, vous pouvez avoir des milliards et des milliards de copies à un coût qui est nul. Et donc, c'est ça la révolution de la médecine, c'est qu'on va pouvoir dématérialiser les remèdes et au lieu d'envoyer des molécules qui nécessitent des industries, des usines chimiques qui sont polluantes, on va simplement envoyer aux patients des spectres de fréquence via l'eau qui les a mémorisés. Donc, vous voyez, c'est vraiment une révolution.
Mais du coup, j'imagine que les industries pharmaceutiques ne voient pas ces développements d'un bon œil, puisque ça viendrait concurrencer directement leur gagne-pain.
Alors ça, c'est une analyse un peu rapide. C'est que les industries pharmaceutiques, ce n'est pas votre santé qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Mm-hmm. Et elles ont une ressource, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut quand même décoder, enregistrer ce spectre de fréquence. Et ce spectre de fréquence, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui pourra l'enregistrer et le décoder. Donc ça, c'est l'industriel qui va le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fera ? Ben, au lieu de vous vendre une matière, il vous vendra une licence d'exploitation d'une fréquence. Et donc, il s'y retrouvera.
Ah, donc
il vendra des fréquences au lieu de vendre des médicaments. Pour lui, ça ne fera strictement aucune différence. Par contre, ce qui va se passer, et ça, c'est le problème qu'on rencontre avec les industries pharmaceutiques, c'est qu'elles ont tellement investi massivement dans des usines chimiques qui coûtent très cher. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé à Lubrizol, à Rouen. Quand vous avez une usine chimique, ça coûte très, très cher. Et il y a ce qu'on appelle des coûts d'amortissement. Et l'industriel ne passera sur un nouvel système que si les coûts d'amortissement des usines sont amortis. Tant que les coûts ne sont pas amortis, ils mettent les nouvelles découvertes sous le boisseau. Donc, ils mémorisent les spectres de fréquence et le jour où leurs usines chimiques seront amorties, ils passeront sur des médicaments dématérialisés et ils feront toujours autant de profit. Simplement, c'est une question de timing qui est un pur problème d'économie.
D'accord. Et je me demandais, Monsieur Montagnier, il y a beaucoup de critiques finalement. Il y a beaucoup de scientifiques qui critiquent vos recherches, qui disent que finalement vous vous exprimez sur un domaine qui n'est pas de votre compétence. Comment vous expliquez pourquoi est-ce que vous soulevez autant de critiques ? En tout cas, vous laissez personne indifférent. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ?
Je réponds justement qu'il faut sauter ce barrage mental qui est bloque actuellement l'évolution de la biologie. Alors, je me considère comme un précurseur et je pense que le temps va travailler toujours pour nous, mais ce qu'il faudrait, c'est que le temps travaille plus vite, car c'est la santé des personnes, des gens qui de toute nature, notre santé qui est en question. On peut faire des progrès énormes avec cette nouvelle, on peut dire, idée, science qui fait appel aux ondes dans la matière vivante. Et ceci, à ce moment-là, va faire sauter beaucoup de blocages. Mais je répète, il faut le temps est important et c'est la santé qui doit primer sur l'économie. Si vous acceptez que la santé soit numéro 1 et l'économie seconde, alors tout est possible.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose ?
Je vous en prie.
Oui, c'est que, bon, il y a des scientifiques qui critiquent Luc Montagnier, mais il y en a d'autres qui sont franchement derrière lui. C'est-à-dire que...
Ah, c'est bien de le rappeler. Merci.
Voilà, on est minoritaire, bien sûr, mais moi, je défends à 100%. Je pense que, comme Luc l'a dit, c'est un précurseur.
Des barrages économiques, si vous voulez, qui sont tels que, malheureusement, les médias, les gouvernements, on peut dire tous les corps constitués, se bloquent sur l'ancienne vision.
Bien sûr, mais vous avez quand même des supporters.
J'ai des supporters, je les apprécie beaucoup. Et vous expliquez mieux que je le fais encore comment ça se passe.
Voilà, donc c'est toujours pareil en science, je veux dire, quand vous voulez changer un paradigme, au début c'est forcément une minorité, on ne peut pas être une majorité, parce que la majorité elle sera forcément dans l'ancien système. Mais il y a quand même une minorité non négligeable qui soutient Luc Montagnier, qui le considère comme un pionnier, parce que c'est vraiment lui qui... Jacques Benveniste était lui aussi un pionnier, mais Luc Montagnier est allé beaucoup plus loin en dématérialisant l'ADN, et on est une minorité à le défendre, mais un jour, cette minorité deviendra, je le pense, une majorité.
Je vous propose de reprendre une petite respiration avant d'attaquer la conclusion de cette soirée. C'est une pause musicale, cette fois-ci choisie par Julie, qu'on vous propose ce soir. C'est un groupe suisse, Alios, qu'on va retrouver dans quelques instants. Il y a d'habitude, effectivement, vous l'aurez peut-être noté, le fameux journal des bonnes nouvelles, mais comme les choses se sont un petit peu goupillées différemment, je vous propose qu'on termine à 21h avec ce fameux journal. Pour l'instant, voici Alios pour la respiration musicale. Et le titre, il était forcément logique, le choix va de soi, puisque ça s'appelle Sous l'eau. Dans cette soirée de la Chaussure Rouge en radio consacrée à la mémoire de l'eau avec nos deux invités de ce soir, Luc Montagnier, Marc-Henri, je vous propose de se diriger gentiment maintenant avec Lucien, avec Julie aussi du côté de la conclusion.
Alors oui, on vient de donc se rendre compte que finalement, c'est fort probable que l'eau puisse enregistrer aussi bien l'émotion humaine que la musique. Mais est-ce que selon vous, selon les expériences que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous, selon vous, le genre de morceau de musique que l'on écoute peut avoir une incidence sur nos cellules à nous, du fait que nous sommes à peu près 90% d'eau?
Alors, c'est qui doit répondre?
Je ne sais pas, celui qui veut, monsieur. C'est Henri, peut-être?
Oui, il se trouve que c'est quand même actuellement le thème de recherche que je développe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que le son est quelque chose de vraiment fondamental. Et bon, je m'intéresse beaucoup, par exemple, à ce qu'on appelle la musique des plantes, en collaboration avec un chercheur qui s'appelle Jean-Toby à Gaujac, en France. Ça consiste à mettre des électrodes sur une plante et à transformer, c'est des courants électriques qui parcourent tout être vivant en morceaux de musique. On peut faire donc chanter une plante, on peut faire chanter un animal, un être humain. Et ce qui est très surprenant, c'est que ces courants électriques ne sont pas du tout aléatoires. C'est-à-dire que les sons, quand on les convertit en fréquences audibles, ben ça donne des choses qui sont toujours très harmonieuses. Donc ça, il faut l'expliquer théoriquement. Donc j'ai regardé ça en détail. Et puis, il y a surtout cette chose magnifique, c'est que vous pouvez passer des heures devant une plante à l'écouter grâce à des appareils qui permettent de transformer ces courants électriques en ondes sonores. Et là, on est, je pense, à la racine même de la vie, c'est-à-dire que tout est vibration et vibration cohérente.
Mais ces ondes sonores, à quoi ça ressemble? Est-ce que vous arrivez à les décrire? Comment chante une plante? J'ai de la peine à m'imaginer.
Ah ben, c'est très simple, vous êtes un être vivant, donc vous êtes fait à 99% en nombre de molécules d'eau, il y a après 0,5% d'ions. Ces ions ne sont pas immobiles, ils sont en mouvement dans l'eau. Et il y a une loi de la physique qui vous apprend que toute charge qui se déplace crée des courants électriques. Ben, c'est ces courants électriques qui parcourent tout être vivant. À partir du moment où vous êtes fait d'eau et d'ions, vous êtes parcouru de courants électriques. Bon, c'est bien, hein, si on vous met des électrodes sur le crâne, on va enregistrer un électroencéphalogramme. Si on vous met des électrodes au niveau du cœur, on va enregistrer un cardiogramme. Si on vous met des électrodes sur l'intestin, on va enregistrer un entérogramme. Donc, vous êtes parcouru de ces courants électriques et la seule chose qu'il faut faire, c'est les enregistrer et utiliser des lois mathématiques pour transformer ces fréquences, ces de courants qui sont des fréquences qui sont souvent pas du tout dans le bon domaine de fréquences sonores, mais on les ramène dans le domaine sonore et à ce moment-là, il y a juste à écouter.
D'accord. Oui, ma question était un petit peu plus terre à terre. Du coup, si on écoute, à quoi ça, est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît au niveau du son? Est-ce que ça, c'est descriptible?
Non, ça, parce que la plante, elle chante dans son langage.
D'accord.
Par contre, ce qui est sûr, c'est quand on utilise, par exemple, des fougères, qui sont des êtres vivants qui ont 400 millions d'années, on s'est aperçu qu'elles peuvent vous scanner. C'est-à-dire que si vous mettez une plante, toujours la même, en face de personnes qui sont différentes, elles ne chantent pas de la même façon. Parce qu'il y a un dialogue qui s'établit entre la plante et la personne. Et si on est capable de décoder ce chant de la plante, on peut décoder les maladies qu'a cette personne.
Effectivement, les plantes, quand elles souffrent de la sécheresse, un ton, une musique différente. Et si une personne est hostile aussi vis-à-vis d'elle, elle le sent. Donc, il faut voir le monde vivant beaucoup plus compliqué, beaucoup plus aussi sensible qu'on veut le traiter actuellement. Et justement, c'est vraiment la responsabilité de l'humanité qui est au sommet de cette pyramide vivante de conserver une responsabilité, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi. Or, par exemple, je reviens à l'agriculture, aux plantes. Les plantes, actuellement, nous étudions les bactéries qui les accompagnent et qui parfois les nourrissent aussi. Et on s'aperçoit qu'après les traitements de pesticides, d'herbicides, après les monocultures, il y a une disparition de certaines espèces bactériennes et l'apparition d'autres. Donc nous sommes en train de transformer le monde qui nous entoure, d'une façon, j'espère, pas définitive, mais il faut en prendre conscience.
J'entends tout ça, je me dis, si l'eau capte, si les plantes qui sont faites d'eau, comme nous, captent ces éléments-là, les émotions, dès lors, qu'en est-il de la structure de l'eau qui sort de nos robinets? Parce que je me dis, pour arriver jusqu'au robinet, l'eau, quel voyage?
Oui, mais là, il faut vraiment penser physique ondulatoire. Quand vous êtes avec des ondes et pas avec de la matière, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des interférences. Et c'est ce qui se passe dans l'eau du robinet, c'est-à-dire qu'il y a tellement de fréquences qui sont codées là-dedans, parce que l'eau du robinet, elle a vécu, comme on dit, elle en a vu des vertes et des pas mûres, que toutes ces fréquences interfèrent les unes avec les autres, et en général de façon destructive. C'est un théorème de mathématiques qui vous dit que si vous prenez toutes les fréquences et que vous mélangez, vous obtenez quelque chose qui est plat. Donc, c'est ce qui se passe avec l'eau du robinet. Il y a trop de fréquences, en fait. Et trop de fréquences, ça veut dire des interférences destructives. Et finalement, vous récupérez quelque chose qui est neutre.
Neutre, donc pas négatif pour nos vies.
Ni négatif, ni positif. Alors, par contre, il va rester, évidemment, toutes les saloperies qu'il y a dans l'eau du robinet. C'est-à-dire le chlore, qui, elles, sont des molécules de matière. Celles-là, elles ne sont pas neutres. Mais au niveau de l'information, on peut dire que l'eau du robinet est une eau plutôt neutre parce qu'il y a trop d'informations et que trop d'informations tue l'information.
D'accord. Mais est-ce que, à partir de là, est-ce qu'on pourrait parler de pollution spirituelle de l'eau ?
Ah, bien sûr, oui. C'est ce que vous faites en permanence, chaque fois que vous avez une pensée négative. Vous polluez votre eau parce que vous avez une interconnexion entre votre eau corporelle et ce que vous pensez. Ça, c'est toutes les nouvelles recherches que je développe, la relation entre l'eau et la conscience. Et oui, il faut savoir que votre cerveau, c'est l'organe le plus hydraté du corps humain. Donc, c'est de l'eau qui pense, votre cerveau. Donc, vous pouvez conditionner votre eau pour être dans des valeurs négatives ou dans des valeurs positives. Ça, c'est votre choix personnel.
Donc, d'où l'importance de soigner nos pensées et de soigner nos paroles.
Oui, d'être surtout en accord avec soi-même. Mmh. Oui, Luc ?
L'eau, c'est le cerveau, c'est aussi la mémoire, bien sûr.
Alors, oui, bien sûr.
Si on arrive à expliquer la mémoire de l'eau sans le cerveau, on pourra l'appliquer aussi au cerveau. Enfin, et tout est possible si on a un esprit ouvert. Je pense que la science, par définition, c'est une évolution continue, avec des étapes quand même, des paradigmes. Mais ces paradigmes n'ont pas une vie très longue et il faut en changer quand on en a besoin. C'est le cas actuellement. Voilà ma conclusion.
Oui, je suis d'accord avec lui qu'on est en train de changer de paradigme, ça c'est très clair.
Donc, si vous dire qu'il faut un peu laisser quelques croyances de côté pour entrer sur de nouvelles, ou pas forcément de croyances, mais pour permettre d'avancer, c'est ça que vous dites ?
Il y a un continuum, c'est-à-dire qu'on explique, si vous voulez, une nouvelle théorie, aussi les phénomènes vus anciennement. Donc, la science n'est pas une rupture, c'est un continuum, mais avec des marches. Et il faut continuer à monter l'escalier indéfiniment. Sinon, on disparaîtra.
Merci. Monsieur Montagnier, je vous cite, hein, je trouve très intéressant, vous avez dit lors d'un reportage ou d'une interview, trouver un virus, c'est bien. Vous parliez bien sûr du virus du VIH pour lequel vous avez été nobélisé. Trouver un virus, c'est bien. Trouver les mécanismes de la vie, c'est plus important. Cela voudrait-il dire que l'étude de la mémoire de l'eau nous mène au cœur du mécanisme de la vie ?
Je pense qu'effectivement, la vie s'est formée, si on admet une formation, on peut dire spontanée, entre guillemets, à partir de l'eau. L'eau, du fait de sa mobilité, de sa capacité à faire des structures, était à l'origine même de la vie sur Terre, avant même l'ADN. Mais c'est une idée personnelle. Bon. Je voudrais revenir aussi sur la musique de M. Cole McDonnell. Elle est justement, c'est comme la musique des plantes, je pense. On a fait penser, j'ai écouté aussi la musique des plantes comme mon collègue Marc-Henri. Et cette musique, ce que je vous ai apporté, ça me rappelle également cette musique des plantes.
Ben, merci beaucoup pour toutes vos explications passionnantes de ce soir. Je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Monsieur Montagnier ? Vous continuez vos recherches. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, justement, un nouveau prix Nobel.
Et c'est les maladies chroniques. Qui se développent, les maladies à la fois chez les jeunes enfants et chez les gens qui ont vieilli, l'Alzheimer. C'est ça qui me préoccupe. Le nombre d'infections chroniques, de maladies chroniques chez les enfants a triplé en quelques années. Et donc, c'est quelque chose qui atteint les nouvelles générations comme les anciennes. Et pourquoi ? Donc, il faut se poser la question, pourquoi ? Qu'est-ce que nous faisons de mauvais dans notre environnement. Voilà. Alors, c'est très complexe. On parle du réchauffement climatique, on parle de l'utilisation des pesticides, etc. Donc, d'une façon plus globale, si vous voulez, est-ce que notre comportement ou notre nombre est tel que les choses vont mal? Voilà. Donc, moi, ma question, ma principale, c'est revenir à des comportements responsables au niveau de l'humanité tout entière. Et quand je dis l'humanité tout entière, justement, à ce moment-là, on oublie devant le danger commun, si vous voulez, on oublie les conflits locaux, etc. Il faut avoir une conscience maintenant globale, parce que nous sommes globalité. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure sur ces mots, revenir à des comportements responsables et dans ce monde globalisé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Merci à tous les deux.
Oui, merci.
Et merci beaucoup pour le travail effectué, parce que vous vous exposez beaucoup. Et je pense que c'est vraiment important aussi d'en être conscient. C'est peut-être bien facile pour nous d'en parler comme ça dans une soirée comme on vient de le faire. On voulait vous donner la parole pour que vous puissiez venir nous expliquer des choses comme ça, des choses qui ne sont pas forcément toujours très accessibles. Mais merci, malgré les vents contraires qui vous chahutent au journalier, de continuer à garder la voilure et de continuer à garder le cap. C'est très, je pense, très précieux pour l'ensemble de l'humanité et de toutes les formes de vie qui occupent cette planète et l'univers. Un grand merci à vous deux.
Merci à vous de me donner la parole.
Merci.
Très belle soirée à tous les deux, et puis peut-être qu'on se retrouvera au détour d'une autre émission, sait-on jamais, si des fois une autre idée germe dans l'esprit de Lucien Vimin. On vous souhaite une excellente continuation, si on peut dire ça également, j'en perds mes mots, hein, excusez-moi. Très très belle soirée, et puis merci à vous d'avoir été présents avec nous. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Puis bravo pour la technique.
Oui, on a un peu ramé ce soir.
C'est pas facile.
Merci beaucoup.
Non, c'est pour ça qu'il faut dire bravo aux animateurs et bravo aux techniciens.
Oui, parce qu'à la fin, on a quand même réussi d'arriver au bout. C'est déjà pas mal. Hein.
Voilà.
Merci beaucoup à vous.
Très belle soirée à vous. Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne suite. Merci. Au revoir.
Et puis nous, on va se quitter avec quoi ? Avec le journal des bonnes nouvelles, qui d'habitude a lieu à 20h30, mais qu'on a un petit peu décalé. On va terminer avec ça. Et lui aussi, on y a passé un petit coup de pinceau, puisqu'il se voit affublé désormais d'un tout nouveau générique.
La chaussure rouge en radio, le journal des bonnes nouvelles.
Marion Chaigneux-Dupuis est la première femme à avoir gravi 3 fois le plus haut sommet du monde.
Ouais, la guide de haute montagne veut débarrasser l'Himalaya de ses déchets qui entraînent une pollution de l'eau non négligeable pour les populations locales. Dès sa première ascension de l'Everest, ce fut d'ailleurs un choc pour elle. Marion Chaigneux-Dupuis se souvient encore de la quantité de déchets laissés en pleine nature. Le toit du monde est alors pollué par une dizaine de tonnes d'emballages, de conserves et d'objets abandonnés par les alpinistes qui reste à l'air libre, faute d'infrastructures pour les collecter. La guide de haute montagne lance alors en 2016 l'opération Clean Everest pour organiser le ramassage et le recyclage de ces déchets en haute altitude. Elle réussit à atteindre 75% de son objectif aujourd'hui, soit 8,5 tonnes de déchets collectés en seulement 3 ans. Et évidemment, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Le web est un pan de notre empreinte écologique qui passe souvent à la trappe. The Shift Project, une start-up française, a mis au point Carbonaliseur.
32 grammes équivalent CO2 relâchés dans l'atmosphère, ce qui revient à parcourir 150 mètres en voiture. Tout ça pour avoir visionné sur YouTube le résumé de la dernière très belle victoire de votre équipe de foot préférée, soit moins de 4 minutes de vidéo. Une broutille pour l'environnement, direz-vous, peut-être. Mais à la fin de la journée, l'impact carbone de nos activités numériques n'est plus aussi négligeable, et encore moins lorsque l'on raisonne à l'échelle de la semaine, du mois, voire de l'année. C'est cet exercice que permet de faire Carbonaliseur, un programme qui informe en temps réel des émissions de gaz à effet de serre associées à vos activités sur la toile. Tout l'objet de Carbonaliseur est alors de montrer cette face cachée du numérique. Le programme comptabilise le nombre d'octets qui va transiter dans votre navigateur et votre temps passé sur Internet. Puis, il calcule la consommation électrique qu'a nécessité votre utilisation d'Internet, à la fois pour faire fonctionner votre terminal, smartphone, ordinateur, portable, tablette, mais aussi derrière les centres de données et l'infrastructure réseau qui achète achemine la donnée jusqu'à vous. Carbonalyseur affiche alors cette consommation électrique qui est convertie en émissions de gaz à effet de serre, indiquée en équivalent CO2, et mentionne la distance que cela revient à faire en voiture. Pour le moment, Carbonalyseur n'est disponible que sur Android et dans le navigateur Firefox.
La production d'énergie renouvelable va bondir de 50% d'ici 2024.
Et selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la capacité de production des énergies vertes devrait augmenter de moitié dans les 5 prochaines années, portée par le développement du solaire et de l'éolien. C'est une croissance spectaculaire, même si elle reste encore insuffisante. La hausse totale devrait s'élever à 1200 gigawatts, soit l'équivalent de la capacité de production électrique actuelle des États-Unis. Le rapport pointe le rôle moteur de l'énergie solaire photovoltaïque, responsable de 60% de la croissance du renouvelable, suivi par les éoliennes offshore, 25%, et l'énergie hydraulique pour 10%. Cette hausse est notamment due à l'implantation de panneaux solaires sur des bâtiments d'habitation et commerciaux qui devraient décoller dans les prochaines années, notamment grâce à une baisse des coûts en changeant significativement, les réseaux d'alimentation électrique. Chez les particuliers, le nombre de toitures équipées devrait doubler pour atteindre 100 millions d'ici 5 ans, soit 6% du potentiel de surface de toit disponible.
Dans le même registre, au Royaume-Uni, les énergies renouvelables ont produit davantage d'électricité que les hydrocarbures au troisième trimestre 2019.
Et une évolution encourageante pour ce pays qui a longtemps été dépendant du charbon. L'énergie renouvelable devient une source d'électricité essentielle au troisième trimestre 2019. Les parcs éoliens, les panneaux solaires, la biomasse et les centrales hydroélectriques du Royaume-Uni ont produit plus d'électricité que la production combinée de centrales alimentées au charbon, au pétrole ou au gaz. Pour arriver à ce résultat, le Royaume-Uni a pu compter sur ses 2000 éoliennes installées en mer. Le pays détient ainsi 45% de la capacité éolienne offshore mondiale. On en est donc maintenant à 41% d'énergie renouvelable, 39% d'énergie fabriquée avec de l'énergie fossile. La part du nucléaire reste cependant inchangée et représente 19% de production totale d'électricité en Grande-Bretagne. Et voilà, c'était tout pour ce journal des bonnes nouvelles. Il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis ce soir. Vous avez été particulièrement nombreux. Visiblement, le sujet de la mémoire de l'eau n'a pas laissé nos auditeurs indifférents, Lucien.
Effectivement, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux avec nous ce soir. J'espère que, bon, malgré les petits problèmes techniques du départ et du milieu, ça n'a pas été facile ce soir. C'est la première soirée qu'on passe aussi difficilement que cela.
Alors, parlait d'énergie fossile, donc ce soir, ça a fonctionné au diesel, hein, donc
ouais,
il fallait que ça chauffe.
Pas terrible, oui. Ouais, donc c'est surtout Patrick qui a chauffé, en fait. T'es du renouvelable, toi, Patrick, t'es pas du diesel.
Je sais pas.
Ouais, bon, en tout cas, il faisait chaud de l'autre côté de la vitre, on le voyait. Ça chauffait.
Et on vous souhaite bien sûr une très très belle, un très beau mois de novembre et on devrait se retrouver en principe début décembre.
Pour de nouvelles aventures.
À bientôt, salut.
À bientôt, bonne nuit.